Bonjour à tous, Mémoire vive consacrée aujourd'hui aux forêts, pays d'art et d'histoire. Je reçois aujourd'hui Anne-Christine Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Anne-Christine, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle que vous jouez au sein de la structure justement du forêt, pays d'art et d'histoire ?
Alors, je suis responsable du Pays d'Art d'Histoire. On trouve autre part sur le réseau national des villes et pays d'art d'Histoire pour le métier que je fais le nom d'animateur ou d'animatrice du patrimoine. Et le Pays d'Art d'Histoire, eh bien, est un label du ministère de la Culture créé en 1985. C'est un label qui encourage la valorisation des territoires qui sont riches de patrimoine. Alors, non seulement le patrimoine historique, mais le patrimoine bâti, vernaculaire, rural, les paysages, les savoir-faire en ce qui nous concerne.
Du patrimoine même des fois encore vivant, habité.
Bien sûr, puisque on ne peut pas figer le patrimoine dans un état de conservation et proposer un patrimoine froid. Alors seuls les monuments historiques qui ont des obligations de conservation, eh bien, sont un petit peu comme ça, sont un petit peu figés. Mais on a bien sûr de vraies choses à montrer, des choses vivantes sur le territoire. Et ne serait-ce que le patrimoine rural, il est vivant car il est complètement habité.
Pour avoir un cadre pour notre discussion, le forêt pays d'art et d'histoire, ça concerne à la fois la plaine et la montagne ?
Voilà, de la plaine à la montagne. Il faut savoir que pour obtenir le label Pays d'Art d'Histoire, qui est, on va dire, l'équivalent culturel d'un parc naturel régional, qui, eux, ont des actions plus ciblées sur l'environnement, nous, on a des actions plus ciblées sur la culture et le patrimoine, donc le cadre est posé, et de la plaine à la montagne, puisque le périmètre décidé par les collectivités locales a été celui de 7 cantons, du sud au nord, on va du canton de Saint-Bonnet-le-Château, sur les plateaux du Haut-Forêt, jusqu'au canton de Noir-Étable, et on embrasse toute la rive gauche du fleuve Loire. Donc on va vraiment de la plaine 340 mètres d'altitude jusqu'à 1634 mètres, Pierre-sur-Haute, sur les Hautes-Chaumes du Forêt.
Donc, à la place d'un parc naturel régional, c'est un parc patrimonial.
Tout à
régional.
Fait, oui. Oui, oui.
Comment on peut définir le patrimoine dans le forêt, les particularités, par exemple, du forêt par rapport aux autres régions du département ?
Alors, le forêt se caractérise par un fait, c'est que déjà, sur le plan des monuments historiques, c'est du côté du forêt, du côté ouest du fleuve, qu'il y a le plus de monuments inscrits ou qui sont donc monuments historiques. Ça, c'est un fait. Donc, on a déjà une matière première de travail très intéressante. Il faut savoir, pour la petite histoire, qu'au début, seule la ville de Montbrison avait réfléchi sur un dossier qui puisse lui permettre d'obtenir le label Ville d'Art et d'Histoire. Et quand une délégation ministérielle est venue visiter, on les a promenés dans le reste du territoire, mais ils ont dit, mais Montbrison, même si elle est l'ancienne grande capitale historique du comté de Forêt, ne peut pas vivre et n'existe pas sur le plan identité sans son pays donc alentour. Et le pays montbrisonnais, eh bien, c'est la plaine rurale, ce sont les monts qui sont agricoles et du coup la demande de labellisation s'est étendue au territoire. Donc ce qui fait notre grande richesse, c'est à la fois ces monuments historiques qui sont plus nombreux que dans le reste du département de la Loire, et se rajoutent à cela des paysages qui sont très variés, puisque je vous ai dit qu'on passait de la plaine 340 mètres d'altitude avec des nuances semi-méditerranéennes au niveau du climat, donc des activités économiques spécifiques, une architecture spécifique, et on grimpe très très vite dans la montagne jusqu'à près de 1600 mètres d'altitude où l'on trouve les pelouses subalpines avec la flore subalpine, un climat plus rigoureux, très océanique avec des fortes pluies. Et là, du coup, on ne construit plus pareil dans les monts du forêt et on n'a pas les mêmes activités qu'en bas. Donc toute cette richesse socio-économique se traduit par un patrimoine très varié, qu'il soit rural, donc les fermes anciennes, les jasseries, les loges de vigne et le patrimoine technique.
Alors il faut que le patrimoine, en tout cas bâti, soit en bon état.
Oui, on essaie de faire en sorte qu'ils soient en bon état. Alors bien sûr...
Et c'est dans vos compétences de donc retaper ces bâtiments également.
Alors, nous suivons, nous incitons les collectivités territoriales à restaurer ou à donner un avenir à ce petit patrimoine bien qu'on a hérité, qui a eu une fonction économique, certes, dans des temps qui sont révolus. Maintenant, ce ne sont plus des fermiers qui vivent dans les anciennes fermes de montagne du côté de Saint-Jean-sur-les-Mieux, ce sont devenus des résidences principales, des gens qui travaillent à la ville, donc il n'y a plus de fonction économique donc agricole. Donc il faut bien se poser la question de comment sauver et comment réhabiliter ce patrimoine-là. Donc nous, en tant que service du patrimoine, nous sommes basés à Montbrison et nous intervenons auprès des mairies, des collectivités publiques ou des privés pour les aider à donner un sens à leur projet et les inciter à rentrer dans des projets de sauvegarde et de valorisation.
Et donc en contrepartie, ces monuments sont inscrits ensuite dans les itinéraires du Forêt Pays d'Art et d'Histoire.
Oui, bien sûr. Alors, on essaye de faire découvrir le maximum de patrimoine quand cela est possible, puisqu'on a le patrimoine qui est lisible du domaine public à partir des routes. Puis quand on veut voir un patrimoine plus spécifique, comme par exemple les fermes à galeries qui sont fermées du côté de Bois, ce sont des privés, ce sont des cours intérieurs avec des grands portails. Quand on veut montrer ce patrimoine-là, on s'arrange avec les propriétaires pour demander l'autorisation de venir une à deux fois par an avec des groupes de visiteurs pour montrer ce patrimoine-là.
Et généralement, ils se prennent bien au jeu, les propriétaires ?
C'est variable. Il y a des propriétaires qui sont très ouverts et puis d'autres sont plus réticents. Vous savez, quand on amène un public sur le terrain, ce n'est jamais donc anodin. Donc il y a parfois des craintes, des peurs qui sont indicibles, mais qu'on essaye de faire partir.
Et justement, ce public, il vient d'où ? Ce sont des forésiens ? Ce sont des extérieurs aux forêts ?
Alors, nous menons deux types d'actions. Premièrement, la sensibilisation de la population locale, donc forésienne, à son patrimoine. On a la nécessité de refaire découvrir aux gens leur patrimoine, c'est-à-dire ce qui est devenu familier autour d'eux. Bien sûr, les monuments historiques qu'ils connaissent en général pour être sortis en famille au moins une fois par an, mais aussi donc le petit patrimoine qui les entoure et auquel les gens sont très attachés. On s'en est rendu compte lorsqu'on a organisé par exemple le concours du patrimoine, où il y avait une mobilisation générale pour sauver de là une chapelle, de si une croix en pierre ancienne qui s'était effondrée, etc. Et donc nous proposons des visites ponctuelles, c'est-à-dire à des jours, des heures déterminées, au public individuel, alors sur des thèmes variés. Ça peut être une visite dans un petit hameau traditionnel de montagne, ça peut être des visites sur un site historique, un ancien prieuré bénédictin, ou ça peut être des mini-balades culturelles d'une journée où l'on mêle le plaisir de la marche à la découverte du patrimoine rural et du patrimoine historique. Donc ceci, on le propose au public local. Et pour le public local, eh bien, on leur propose des choses plus fines, bien plus intimistes, qu'on ne pourrait le proposer aux groupes venant de l'extérieur. Notre seconde action, bien sûr, va en direction des groupes, puisque les acteurs locaux du Forêt nous ont dit « Oui, mais il faudrait que le Pays d'Art d'Histoire serve à faire connaître la région, puisque ce label, normalement, est un label de valorisation économique par le patrimoine. Nous avons besoin de maintenir les fréquentations des musées, des sites patrimoniaux, donc il faut que le Pays d'Art d'Histoire eh bien, propose une offre à l'extérieur de la région pour attirer les groupes. Donc pour les groupes, nous formulons des circuits culturels qui ont des contenus légèrement différents de ce que l'on peut proposer à la population locale, puisqu'il y a plusieurs échelles au niveau de l'intérêt. Pour les forésiens, on propose la redécouverte d'un petit patrimoine qui a seulement un intérêt local pour un spectateur de l'extérieur. Et pour les groupes, eh bien, on insiste sur les points forts du Forêt.
Et le plus gros contingent de visiteurs en ce moment, c'est plutôt les forésiens ou plutôt les extérieurs ?
Oui, alors nous avons un gros contingent de ce qu'on appelle de touristes de proximité, c'est-à-dire des forésiens, des locaux ou des gens des départements limitrophes qui se déplacent à la journée pour venir visiter. Effectivement, dans les visites fixes proposées donc dans le programme annuel du Pays d'Art et d'Histoire, on a pratiquement 70 à 75% de forésiens qui viennent suivre des visites guidées pour redécouvrir l'histoire, le patrimoine et puis finalement pour redécouvrir leur identité, rechercher leurs racines propres.
Vous écoutez Mémoire vive sur RCF Saint-Étienne.
Est-ce que ces visites répondent à une logique d'itinéraire ? Est-ce que ça se fait à la demande ou alors est-ce qu'il y a des itinéraires qui sont déjà prévus ?
Donc au niveau des groupes, Nous avons une brochure qui présente des circuits, ce sont des itinéraires prédéfinis. Mais souvent, par sensibilité de tel ou tel groupe, on nous demande des montages à la carte. Donc rien n'est figé et on monte des journées vraiment qui répondent au centre d'intérêt des groupes qui veulent visiter la région.
Et la liste des sites, j'imagine, s'allonge d'année en année ?
Oui. Elle s'allonge d'autant plus que le périmètre du Pays d'Art d'Histoire a pour avenir de s'agrandir et d'englober les communes de la rive droite de la Loire, c'est-à-dire d'englober la région de Feurs, Moron-les-Bains, Saint-Galmier et Chazelles-sur-Lyon. Donc, à court terme, le Pays d'Art d'Histoire devrait doubler de surface. Donc, les actions de découverte devrait concerner un plus grand nombre de communes, 140 communes environ, contre 90 actuellement. Et donc, on va toucher un bassin de population bien plus large que le nôtre actuellement.
Alors, les limites des anciennes provinces sont parfois un peu floues. Feurs, on s'imagine bien dans le forêt. Saint-Galmier, Moron, est-ce que c'est aussi le forêt ?
Oui. Actuellement, il y a un travail, une étude qui est menée depuis plusieurs mois dans le cadre de la constitution du pays du forêt, où la population locale a été invitée à s'exprimer et il est ressorti de ces forums cette identité forésienne, cette appartenance aux forêts qui est bel et bien ressentie de Saint-Galmier, Chazelles-sur-Lyon jusqu'à Servières-Noiretable.
Et la question c'était, est-ce que vous vous sentez forésien ?
Oui, donc la question était, est-ce que vous vous sentez forésien ? Alors ça, c'est une question très épineuse. D'ailleurs, les visites guidées essaient d'y répondre. Parce que la plupart des gens qu'on interroge, même quand ils sont natifs du forêt, quand on leur dit, est-ce que vous vous sentez forésien ? Ils hésitent un petit peu. Parce que oui, je suis forésien parce que je vis dans cette région, mais est-ce qu'il y a une culture forésienne ? Et on essaie de démontrer ou de montrer aux gens qu'il y a bien une culture forésienne dans la façon de s'exprimer déjà, dans la façon de vivre, dans la façon de construire, dans la façon de travailler, dans les mentalités. On n'est ni lyonnais ni auvergnat, on est entre les deux. Le forêt, tout comme le reste du département de la Loire, a toujours été une terre d'influence depuis les premiers siècles du Moyen-Âge et puis même bien avant. Donc on est une terre d'influence et c'est un mélange de tout ça qu'il faut faire ressortir et réexpliquer aux gens pour qu'ils aient leur repère.
Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques exemples de ces sites du nouveau patrimoine ?
Eh bien écoutez, les exemples sont nombreux, mais on a certains fils directeurs. Alors pour le public individuel qui veut passer des week-ends agréables, nous avons par exemple des mini-balades culturelles, c'est-à-dire en général des boucles pédestres de 8-9 km qui permettent de découvrir le patrimoine dans toutes ses composantes. Alors on a la chance dans le forêt d'avoir deux sections du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui convergent et qui se recoupent dans la plaine du Forêt et qui ensuite grimpent dans les monts du Forêt en direction du Puy, puisque le Puy en Velay est propulsé actuellement comme point de départ principal des chemins de Saint-Jacques. Mais nous avons une transversale qui arrive de Lyon. Quand la région lyonnaise voulait partir à Saint-Jacques, il passait par les monts du Forêt, il traversait la ville de Saint-Galmier et ensuite arrivait grosso modo entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Romain-le-Puy. Et on a un autre itinéraire qui vient de la Bourgogne et qui traverse le département du nord au sud et qui arrive dans le forêt par donc Montverdun, Chandieu, Saint-Romain-le-Puy et qui ensuite file dans les monts du forêt en direction de Marolles-Montarcher. Et donc nous proposons une petite promenade dans le secteur de Saint-Jean-sur-les-Mieux et où l'on fait suivre au public, aux visiteurs, un tronçon de ce chemin de Saint-Jacques qui reprend des itinéraires très anciens, qui reprend un itinéraire romain. Et on visite, on voit toutes les matrices historiques qui se sont mises en place. Alors on peut voir un ancien pont médiéval dit pont romain. On voit un ancien hameau donc industriel installé au 19e siècle le long de la Mare, la vallée de la Mare qui était très réputée pour ses activités de moulinage. On découvre ensuite la crypte romane de l'église de Saint-Jean. Vous savez que les cryptes romanes sont très peu nombreuses dans le département. Ensuite, on va lire, faire une lecture sociale et esthétique classique des maisons de riches bourgeois ou riches paysans de Saint-Jean-sur-les-Mieux qui ont leur jardin d'agrément, le jardin potager, les deux gros pigeonniers qui racontent aussi une histoire sociale. Et puis on peut finir aussi par la découverte de petits hameaux de montagne vers 800-900 mètres d'altitude et des activités nouvelles aussi, puisqu'on vit donc au 21e siècle, il y a des choses qui se font très intéressantes et on peut faire visiter dans cette petite balade une Habille Essence, qui est une entreprise qui distille des huiles essentielles et qui travaille. Sa matière première, ce sont les essences végétales du forêt, et on montre justement comment on peut travailler encore dans le milieu donc agricole à partir des richesses locales.
Qu'est-ce qui est le plus demandé? Qu'est-ce qui est le plus apprécié par les visiteurs généralement?
Vous savez, les visiteurs ont des goûts très, très conservateurs. Pour eux, le patrimoine se limite généralement à la chose historique, on va dire.
Les vieilles pierres,
parce que les vieilles pierres, on considère que c'est du patrimoine parce que c'est vieux et parce que c'est esthétique. Bon, et puis qu'il y a donc une histoire très ancienne qui fait la valeur du patrimoine. On a un peu plus de difficultés, mais depuis 5 ans, la notion de patrimoine s'est élargie et les gens commencent à l'assimiler. On a beaucoup plus de fréquentation sur les thèmes du patrimoine rural et sur les thèmes de l'environnement et de la nature. Ça, c'est une tendance générale et il y a donc ces deux gros blocs qui se côtoient, patrimoine historique contre ou donc avec en parallèle le patrimoine naturel, environnemental et rural qui enregistre une forte hausse des fréquentations. Et on essaye de promouvoir justement les visites dans ce secteur-là parce que la culture ne se résume pas aux monuments historiques, bien qu'ils soient très beaux et bien qu'on les fasse visiter aussi avec des angles d'explication très, très originaux. Ils ne sont pas un tout.
When petite sœur will just have to remember I'll be down no more, the old dancing music sound, all day long in my gown, when I will be down. Quand je serai KO, descendu des plateaux de phono, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Attention, plus personne, porteur de glace, de chewing-gum. Plus de belle allure, chevaux glissant sur la côte d'Azur. Quand je serai pomme dans les souvenirs, les albums, est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? When petite sœur will just have to remember I'll be down no more, the old dancing music sound, all day long in my gown, when I will be down. Plus d'atoll pour une déprime qu'à du bol. Plus les folles griffonnant, je t'aime sur des bristoles. Quand je serai rien qu'un chanteur de salle de bain, sans clap, clap, sans guitare, sans les batteries qui tapent. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Quand je serai KO, descendu des plateaux de faune, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore cette petite mort? I'll be down no more, the old dancing music sound, all alone in my gown, when I'm down.
Vous êtes toujours sur Mémoire Vive, sur RCF Saint-Étienne, avec Anne-Christine Ferrand pour les nouveaux sites patrimoniaux du Forêt. Juste quelques mots sur ce patrimoine historique. On parle beaucoup du Moyen-Âge, puisqu'on oui. a l'image de la bâtie d'Urfé, des cryptes romanes. Oui. Est-ce qu'il y a également des époques, est-ce qu'il y a des constructions avant ou après, je veux dire par exemple l'Ancien Régime ou le 19e siècle avec la Révolution industrielle?
Alors,
est-ce qu'on a avant et après?
Oui, on a des constructions donc Ancien Régime qui se traduit surtout par des manoirs ou des châteaux de familles aristocrates ou de familles bourgeoises qui ont investi dans la terre, dans la propriété foncière à partir du XVIe siècle autour de Montbrison, autour de l'ancienne capitale. Ensuite, on a un autre type de ferme résidence du 19e siècle, début 20e, construit par les riches industriels stéphanois qui, on le sait, se sont servis du Forêt, de ses étangs, comme un territoire de loisirs, un territoire de chasse. Et on a donc de gros bonnets de l'industrie, comme on dit stéphanois, qui ont fait construire partout dans la plaine des maisons très cossues qui leur servaient de résidence secondaire et de loisirs. Mais on a bien sûr ensuite l'artisanat 19e siècle, un artisanat qui prend racine dans un passé très lointain, qui prend racine au Moyen-Âge et qui perdure, ne serait-ce que par exemple le travail du fer à Saint-Bonnet-le-Château, qui a commencé par la serrurerie, les forces à tondre, les ciseaux pour tondre, et qui a fini par la fabrication de la boule au but. Puis on a des savoir-faire donc industriels du 19e, les verreries principalement, les verreries de Vauche, de Saint-Romain-le-Puy, de Saint-Rambert, qui se sont installés et qui font partie de ce patrimoine du 19e siècle.
Mais davantage artisanal donc qu'industriel véritablement.
Tout à fait. Pour trouver la chose industrielle 19e, 20e, je vous encourage à venir découvrir Saint-Étienne.
En plus, ça indique beaucoup, ça en dit très long sur la vie quotidienne des gens finalement, sur la manière de vivre dans le Forêt. Là, on a une vraie limite entre justement le sud de la Loire qui est très industrieux, oui. et le Forêt donc qui a un mode de vie différent.
Oui, il y a donc le mode de vie urbain. Saint-Just-en-Ambert, Andrézieux, jusqu'à Montbrison font partie de la couronne suburbaine stéphanoise. Et puis il y a le milieu rural, autre mentalité, autre façon de penser. Donc on la retrouve dans les monts du Forêt, dans la plaine, puisque la plaine est restée très agricole. Au-delà de Vosges-Vauchette, là on rentre dans les grands domaines agricoles, dans le domaine de l'élevage de chevaux de course, qui est très important, très discret, mais on est quand même la deuxième région productrice de chevaux de course après la Normandie, il faut le savoir, mais ça ne se voit pas. Et donc, effectivement, il y a deux mentalités qui ne s'affrontent pas, mais qui sont là et qui font la richesse aussi du patrimoine social.
Ça fait combien de temps que le Pays d'Art et d'Histoire, en tout cas, propose ces visites?
Alors, le Pays d'Art et d'Histoire du Forêt existe depuis 1998. Et depuis la première année, donc, il a proposé une offre. Alors, une offre qui s'est bien sûr étayée, qui a augmenté, qui s'est étoffée. Hein. Et maintenant, donc, on a une offre raisonnable pour pouvoir entamer, on espère, un travail sur le rayonnement culturel du Forêt, puisque on souhaite qu'il y ait un rayonnement culturel et une véritable reconnaissance de cette partie-là du département de la Loire.
Pour ça, vous disposez de quelles armes? Cette convention avec l'État, il y a des devoirs, effectivement, mais il y a également des possibilités que vous devez avoir.
Oui, alors, nous avons ce travail avec l'État, puisque à partir de 1998, il y a eu signature entre les collectivités territoriales et l'État d'une convention qui spécifie les obligations de développement que doit avoir un pays d'art d'histoire, donc les axes généraux d'orientation et les principaux objectifs. Et puis après, on adapte selon les besoins locaux. Donc il y a cette exigence de l'État. Et puis ensuite, bien sûr, en bas, il y a les collectivités territoriales, les élus et les acteurs locaux. Le Pays d'Art d'Histoire a pour tâche de les mettre en réseau, de les faire travailler en réseau pour faire émerger ce bloc socioculturel Forêt. Et ensuite, bien pour mener des actions, il faut de l'argent. L'argent est le nerf de la guerre. Et nous trouvons l'argent et dans les collectivités territoriales, auprès de la région Rhône-Alpes et auprès de l'Europe, selon les opportunités.
Donc votre force, c'est cette position un peu de chef d'orchestre vis-à-vis des collectivités locales.
Voilà, tout à fait. on incite les collectivités à avoir des projets, on les porte hein, dans leurs projets, on les accompagne. Et donc, effectivement, on est chef de réseau, on est une tête de réseau et on essaye de faire en sorte que chacun travaille dans une stricte complémentarité par rapport aux autres, qu'il n'y ait pas une concurrence sur des projets similaires.
Radio Chrétienne en France, à Saint-Étienne, sur le 94.7.
Alors, en parlant de complémentarité, les propriétaires des sites qui sont encore habités, qui sont propriétés privées, les propriétaires ne se contentent pas toujours, j'imagine, de simplement ouvrir leurs portes. Il y a aussi des fois où ils expliquent eux-mêmes l'univers dans lequel a évolué leur construction, leur maison.
Oui, oui. Il y a des sites que l'on programme dans la visite où l'accueil est fait par le propriétaire. Et là, le guide conférencier donc agréé par le ministère s'efface hein, et laisse la parole bien sûr aux propriétaires, ce qui permet aussi au public de ne pas être en seule présence du discours du guide conférencier, mais d'avoir des explications qui viennent de multiples horizons. Alors tantôt on est accueilli par un propriétaire de château puisqu'il est propriétaire et qu'il connaît bien l'histoire de son château, tantôt quand on aborde des étangs qui sont privés dans la plaine du Forêt, il n'y a pas ou peu d'étangs publics, eh bien c'est le propriétaire qui est en général un gros agriculteur qui mène plusieurs activités agricoles qui vient expliquer les usages qu'il fait actuellement de ces étangs. Donc c'est très 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 enrichissant et ça permet au public de rentrer vraiment en contact avec le terrain. Ce n'est pas un tourisme superficiel.
Ça permet d'avoir effectivement deux sons de cloche.
Voilà, on va donc à la rencontre d'un pays et on va à la rencontre des gens. Ce qui est très, très recherché par le public.
Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre part à cette aventure ?
Eh bien, j'ai pris part à cette aventure pour des raisons professionnelles et puis pour aussi certaines affinités. Les gens comme moi qui dirigent des villes ou des pays d'art d'histoire sont recrutés sur concours national. Donc, on ne recrute pas comme ça des responsables de villes et pays d'art d'histoire. Dans la convention, justement, l'État exige que le développement d'une région par le biais du patrimoine culturel soit pris en charge par des professionnels. Donc, l'animateur du patrimoine doit être un professionnel. Alors moi, je suis issue de la filière histoire. J'ai fait mes études à Saint-Étienne. D'autres collègues sont issus des filières histoire de l'art, archéo, urbanisme, École nationale des paysages de Versailles. Il y a des architectes. Voilà, donc on n'arrive pas comme ça. Et donc ensuite, on a donc ce travail ensuite à faire à l'échelle du territoire où d'une formation scientifique au départ, eh bien, on est amené à faire un travail de véritables agents de développement de territoire.
Et vous êtes du département vous-même ?
Alors, moi je suis du département, oui, ce qui est rare pour les responsables de ville et pays d'art d'histoire qui le plus souvent viennent d'une région extérieure. Je ne suis pas la première donc animatrice du patrimoine du Forêt. Il y a eu une première animatrice de 1998 à 1999 qui venait de Paris, puis ensuite elle est partie. Moi je suis arrivée en mai 2000 et effectivement j'ai la chance de bien connaître la région parce que du côté de ma famille, on est en partie forésien.
Il y a un cahier des charges précis à respecter, je pense, vis-à-vis véritablement de vous, de votre organisation, pour avoir le label Pays d'art et d'histoire.
Le label arrive. Mais ensuite, il faut suivre vraiment donc les lignes principales du ministère de la Culture qui sont, d'une part, obligation de mener des actions pour sensibiliser la population locale, que ce soit le public adulte ou les enfants. Donc on mène en direction des adultes eh bien, des visites ponctuelles, des expositions itinérantes, temporaires. Le soir, on peut animer des projections de diapositives, donc des conférences diaporamas, des débats. Pour le public scolaire, on a tout un panel d'activités pédagogiques, une trentaine de visites ateliers, destiné aux primaires, aux collèges, aux lycées et voire au premier cycle de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est déjà une grosse charge. Si vous voulez des chiffres, le nombre de visiteurs qui vient sur les visites ponctuelles du Pays d'art d'histoire, donc qui démarrent de mai et qui finissent à octobre, ça représente environ 11 000 visiteurs.
Sur une année.
Sur une saison touristique, donc 6 mois. Et pour le public scolaire, là, qui résonne en matière d'année scolaire septembre-juin, on avoisine les 10 000 scolaires sur la trentaine de visites ateliers proposées.
Vous avez des visites qui s'adressent à chaque saison ou parce que effectivement le forêt avec son nivellement permet peut-être de faire des activités ou de proposer des choses selon la saison.
Oui, mais c'est très difficile. En hiver, il y a énormément de sites qui sont fermés, surtout les sites historiques qui ne sont pas chauffés. Déjà que le Forêt n'est pas une région touristique par essence, on essaye de la faire devenir touristique, mais l'hiver, effectivement, c'est plutôt sport d'hiver, le ski de fond sur les Hautes-Chaumes, le ski de piste. Et donc l'hiver, le pays d'art d'histoire du Forêt profite de cette saison morte pour former les gens qui travaillent dans les sites d'accueil, donc dans les sites patrimoniaux, dans les offices de tourisme. On leur donne une formation scientifique qui est animée par des universitaires de toutes sortes ou par des spécialistes des métiers du patrimoine. On fait intervenir des historiens, des archéologues, des ethnobotanistes pour avoir une vision complète du patrimoine et une explication, une approche du patrimoine forestien vue par plusieurs disciplines. Et donc l'hiver, on forme les gens pour qu'ensuite ils puissent proposer des visites très complètes à leur public. Et surtout des visites qui se basent sur un fond scientifique sérieux.
Alors voilà, justement, si on veut se balader dans le forêt, accompagné par le Forêt Pays d'Art et d'Histoire, concrètement, comment on fait? Est-ce qu'on s'adresse à une office du tourisme ou alors est-ce qu'il y a un local spécial pour le Forêt Pays d'Art et d'Histoire?
Alors, nous avons notre bureau, mais qui n'a pas pour fonction donc l'accueil du public. Toutes nos brochures, nos programmes sont disponibles dans tous les offices de tourisme et syndicats d'initiative du Forêt et voire de la Loire.
D'accord, donc c'est par l'intermédiaire donc des offices de
voilà,
tourisme.
Et vous demandez donc le programme de visite du Pays d'Art et d'Histoire. Et normalement, on vous le donne.
Vous êtes combien à travailler dans cette structure?
Nous sommes 2 personnes à temps plein. Bientôt, nous serons 2 personnes et demie, ce qui est très juste hein, pour faire tout ce qu'on a à faire. Et bon, dans le cadre de l'extension du label, on espère à moyen terme doubler les effectifs si on veut continuer à travailler dans l'esprit de la convention et si l'on veut continuer à donc assurer toutes les charges de travail qui ne cessent de grandir.
Et les gens que vous formez, c'est juste donc pour la saison touristique?
Voilà, donc les gens qu'on forme, la formation des guides est un volet important. On les forme l'hiver pour la saison touristique suivante. Et donc on aide aussi des sites historiques un peu isolés qui ne savent pas trop comment travailler leur visite. On les aide à monter le contenu, le discours de leur visite guidée. Puis le reste du temps, eh bien, nous travaillons avec les collectivités territoriales et avec différents services, les services des monuments historiques ou autres, les archéologues de la Traque pour fouiller encore, pour approfondir la connaissance scientifique du terrain.
Et vos guides reviennent d'une année sur l'autre ?
Les guides sont agréés. Ils reviennent, pourquoi ? Parce qu'ils ont passé un examen d'aptitude. On n'est pas guide comme ça pour le Pays d'Art et d'Histoire. Il faut que les gens passent un examen d'aptitude régional qui se déroule en général une fois tous les 2 ans, qui est décrété par le préfet de région. Et cet examen est assez difficile. Donc il y a des écrits, des dissertations, il y a des épreuves orales qui sont assez costaudes. Et donc les gens, une fois qu'ils ont donc leur examen en poche, ils deviennent guides professionnels. Donc ils ont une carte de guide professionnel, donc c'est très valorisant pour eux. Et ils travaillent régulièrement, soit donc à notre demande, puisque nous travaillons avec des guides vacataires, soit ces guides-là se trouvent un travail à plein temps ou temps partiel dans les sites historiques ou dans les musées et ils travaillent pour la structure, donc pour leur employeur en réseau avec nous.
Donc nous sommes entre de bonnes mains, c'est ça?
Voilà.
Et la saison redémarre quand là?
Alors, la saison redémarre au mois de mai en ce qui concerne le public individuel. Alors, avec beaucoup de choses nouvelles, on essaie de faire découvrir des villages un peu méconnus. Une fois par mois, on fait découvrir le village du mois. Il y a des nouveautés, donc les premières visites, par exemple, commencent le dimanche de mai à 15h par la visite de Roche-en-Forêt. Roche-en-Forêt qui est un bourg rural voile perché dans les monts du Forêt au-dessus de Montbrison à 900 mètres d'altitude et qui est riche de son patrimoine médiéval mais aussi de son patrimoine rural. Et donc il y a Roche, il y a la balade, la fameuse balade qu'on a décrite sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle le samedi 8 mai, donc au départ de Solémieux. Et puis nous faisons visiter des villages qui ont été le théâtre de découvertes extraordinaires. On fait visiter, nouveauté, le village pratiquement oublié de l'hôpital sous Rochefort, donc entre Bouin et Servières. Pourquoi ? Parce que le service des monuments historiques a découvert des fresques, des peintures murales étonnantes dans l'église priorale, des peintures murales de la fin du XVe siècle et du XVIIIe siècle. Donc ce sont des découvertes qu'on fait, qu'on montre au public et qu'on va essayer d'expliquer le plus justement possible. Jadis, alors si on remonte dans le temps, le village de l'hôpital n'existait pas puisque c'était un regroupement de communes du pays de Solor, mais l'hôpital sous Rochefort, c'est un village d'essence médiévale qui s'est complètement dépeuplé, qui a des difficultés pour vivre actuellement et qui est pourtant riche de ce patrimoine. Il ne se trouve pas dans un secteur non plus très touristique puisqu'entre Bouin et Noirétable, donc il y a cette vallée qui a subi de plein fouet la crise économique des années 70, donc qui a été assez traumatisée, et là justement par le patrimoine qui vit, puisque l'histoire n'est pas figée, on redécouvre des choses sous les plâtres des églises, on peut remettre un coup de projecteur sur ces petits villages auxquels on ne prêtait pas forcément attention quand on passe au bord de la route.
Et voilà qui redonne un petit peu d'espoir, effectivement.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
De rien.
À bientôt.